Bonjour à tous et bienvenue sur Verton Talks, une série d'échanges menés par les consultants du cabinet de conseil Verton pour explorer ses missions et comprendre comment Verton accompagne ses clients autour de leur stratégie marketing et de leur développement commercial. Notre objectif, à travers ce podcast, est de présenter les missions phares du cabinet expliquées par ceux qui les ont pensées. Dans cet épisode, nous accueillons Fabienne Goarzin, partenaire chez Verton au sein du pôle services financiers. Nous échangerons ensemble autour du rôle du conseiller financier auprès de la clientèle aisée en 2023 et nous décrypterons dans un premier temps quelles sont les grandes tendances qui impactent ce rôle clé et puis ensuite nous analyserons quelle est la touche Verton pour aborder ce sujet avec les acteurs du secteur. Bonne écoute! Dans un contexte économique en perpétuelle mutation, les conseillers financiers deviennent plus que jamais des partenaires de confiance travaillant en étroite collaboration avec leurs clients aisés. De quelles compétences doivent pouvoir faire preuve les conseillers financiers en 2023? De quelles ressources disposent-ils, notamment pour aider leurs clients aisés? Quelle organisation se met en place autour des conseillers financiers? Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chaque typologie de clientèle? Comment conjuguer les enjeux de performance et de satisfaction auprès de la clientèle aisée? C'est à ces questions, entre autres, que nous tenterons de répondre avec notre invitée Fabienne, partenaire chez Verton. Bonjour Fabienne.
Bonjour Mathilde, ravie d'être avec vous.
Merci beaucoup de participer à ce podcast. Alors pour commencer, je te propose de nous présenter quels sont les principaux éléments de marché qui impactent la manière dont les conseillers financiers, puisque c'est notre sujet du jour, abordent la clientèle aisée en 2023 et puis dans les années à venir également.
Oui, alors il n'aura échappé à personne que 2023 est marqué par un environnement économique dégradé. Sur le marché de l'épargne ou du crédit, notamment avec la remontée des taux, donc elle a impacté certes les particuliers, mais aussi la rentabilité des acteurs et leur capacité à accompagner les besoins de leur clientèle. Sur les marchés boursiers, on a une actualité très chahutée, avec un certain nombre de portefeuilles d'investissement qui ont perdu beaucoup de valeur. Enfin, par exemple, sur le marché immobilier, fortement impacté, comme on le sait, sur le volume de crédit immobilier octroyé, hein, donc sur le volume de transactions associées, et en corollaire sur la capacité du marché à porter ses promesses pour les investisseurs, avec le risque associé de chute des prix. À cet environnement économique dégradé, on peut ajouter aussi le contexte concurrentiel, hein, qui est de plus en plus fort. Alors, c'est pas une nouveauté de cette année, mais voilà, une intensification. Avec des clients aisés qui ont désormais le choix entre différentes propositions de valeur, qu'elles viennent des banques traditionnelles, des banques en ligne, des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine indépendant ou encore des entités gestion patrimoniale, des assureurs. Et on l'a vu dans une étude réalisée cette année en 2023, que plus le patrimoine est élevé, plus la clientèle a tendance à diversifier les acteurs financiers qui travaillent avec elle et notamment le mix des acteurs associés. Je voudrais également citer MiFID 2 et l'obligation associée de rendre plus visible et plus explicite pour le client le volet commission, qui fait bien évidemment porter une pression accrue sur le conseiller et sa capacité à délivrer un conseil de qualité. On pourrait aussi dire que dans ce contexte économique compliqué, avec une tendance baissière, c'est jamais évident d'être complètement performant vis-à-vis de sa clientèle, donc une vraie gageure quelque part. Et puis, peut-être pour finir, donc on parle du conseiller, mais il faut bien avoir à l'esprit aujourd'hui que tout ne se passe pas dans le bureau du conseiller, que se développent de plus en plus des cercles d'investissement, de philanthropie, des réseaux d'entreprises, d'entrepreneurs également. Tout ça crée un écosystème autour du client, client aisé, client patrimonial, qui vient quelque part, qui peut venir en concurrence ou en complémentarité, en tout cas, avec les conseillers financiers.
D'accord, merci beaucoup. Alors effectivement, on comprend qu'il y a un bon nombre de contraintes qui s'exercent et du coup, je me pose la question de savoir comment précisément les clients aisés, eux, de leur côté, réagissent dans ce contexte.
Comme on l'a dit, ils sont de plus en plus volatiles et définitivement, là, on voit que la fidélité se dégrade. Il faut aussi dire que cette clientèle aisée dont on parle, elle est aussi une clientèle plurielle. Un client aisé ne se définit pas juste par son patrimoine, mais par d'autres éléments qui doivent entrer en considération, comme les parcours de vie individuels de ces clientèles aisées, et également la relation qu'elles ont à leur patrimoine. Et donc tout le jeu, quelque part, du conseiller de financier, c'est de bien être en appréhension de ces différences et de construire la relation avec son client et du coup le patrimoine de ce client dans la durée, en affûtant au plus possible à la fois sa proposition de valeur et son mode de communication.
Tu parles d'une clientèle aisée que tu caractérises de plurielle. Qu'est-ce qui définit justement cette pluralité? Est-ce que tu peux préciser cette notion?
Ouais, peut-être que le mieux, c'est que je partage quelques exemples. Mmh. Bon, le premier, avec la diversification des origines de fortune. Donc, on voit apparaître des patrimoines d'entrepreneurs plus jeunes. On comprend bien que pour ces populations-là, le sujet n'est pas tant de préserver son patrimoine que de le voir comme un capital d'investissement. Et en corollaire, du coup, le besoin pour le conseiller financier d'adapter la gestion patrimoniale et la relation avec son client en fonction. Et notamment les modes de communication qu'il va pouvoir mettre en œuvre. On peut aussi parler, à titre d'exemple, des next-gen, ou les générations qui sont issues des familles aisées, qui peut-être elles vont voir un accompagnement dans leurs études ou leur démarrage de leur vie active à l'international. Et c'est un sujet sur lequel le conseiller financier va aussi pouvoir intervenir dans les incidences que ça peut avoir sur le patrimoine du client. Je voudrais également parler des clientèles aisées féminines qui ont un profil d'investissement particulier, avec par exemple une appétence plus forte à la préparation de l'avenir, que ce soit pour elles, leur cercle familial et pour la planète. Et on le voit bien, elles ont peut-être une prise en compte plus importante de l'impact environnemental et sociétal dans leurs décisions d'investissement. Je vais aussi citer bien évidemment les clientèles plus âgées, clientèles aisées plus âgées, qui elles aussi attendent de la modernité dans leur rapport à leurs banques, à leurs institutions financières, et qui peut-être sont moins sensibles qu'avant à l'apparat, par exemple, d'une agence premium, mais plus à la capacité de leur conseiller, leur délivrer une réponse rapide par rapport à leurs besoins. Donc on voit bien, ce sont des exemples, mais on a différentes typologies de clientèle, et donc le sujet pour le conseiller, c'est complètement adapter sa démarche à ces différentes clientèles.
Et donc tu parles d'une diversité de situations, patrimoine d'entrepreneurs plus jeunes, next-gen, clientèle féminisée. Tu as aussi parlé de la clientèle patrimoniale âgée. Comment un conseiller peut-il s'adapter à toutes ces différentes attentes? Est-ce que ce n'est pas finalement une mission impossible face à cette variété que tu décris?
Alors, c'est vrai qu'il y a un enjeu d'évolution des compétences du conseiller. Au vu de tout ça, c'est assez évident. Et donc, il y a cet enjeu de pouvoir répondre à ces différentes typologies de clientèle et de les accompagner dans le temps, dans la construction de leur patrimoine. C'est pour ça que voilà, le titre du podcast, c'était le conseiller patrimonial 2023, un vrai couteau suisse. Effectivement, pour pouvoir répondre aux besoins de ses attentes et s'adapter dans le temps, le conseiller financier doit vraiment développer des compétences nouvelles et différentes. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est un vrai couteau suisse. Sur le sujet de la relation, par exemple, les modes de communication, notre conseiller financier va devoir s'adapter avec notamment le digital, comme dans tous les secteurs, bien évidemment, également avec des messages parfois courts et brefs. Alors, c'est vrai que c'est pas évident dans la gestion patrimoniale d'aborder des sujets structurants de patrimoine, voire des sujets personnels, parfois avec des canaux digitaux ou encore une fois des messages courts. Donc, il y a un vrai sujet là d'adaptation. Sur la partie ISR aussi, on l'a évoqué également. Bien évidemment, le conseiller doit connaître l'offre d'investissement socialement responsable. Il doit savoir identifier les préférences d'investissement de ses clients, comme l'exige la réglementation MiFID II. Également maîtriser les critères ESG pour bien être en capacité d'accompagner les décisions de placement de ses clients. On voit bien derrière tout ça donc l'enjeu de formation en continu, qui est majeur pour le conseiller. Un sujet sur lequel les organisations peuvent apporter une réponse en interne avec des structures de formation, mais sur lesquelles vont aussi avoir affaire parfois à des organisations extérieures spécialisées. Ça prend du temps, donc beaucoup d'investissements pour le conseiller financier et puis aussi un investissement personnel, puisqu'on l'a vu, tout ça fait changer quand même drastiquement la manière dont il va travailler son portefeuille de clients aujourd'hui et demain. Mais la question de départ, c'était est-ce que tout ça est vraiment envisageable et possible ? Donc oui, c'est un petit peu compliqué de s'adapter à toutes ces clientèles, à maîtriser tous les produits associés, la réglementation, accompagner les évolutions des besoins dans le temps. Donc c'est pour ça aussi que le conseiller n'est pas tout seul. Il va pouvoir s'appuyer sur un réseau d'expertise qu'il va devoir mobiliser. On parle d'expertise en immobilier, en fiscalité par exemple, sur des sujets particuliers que sont la transmission d'entreprise, ou même pour certains types de clientèle, par exemple, d'expertise dans l'investissement en art, en philanthropie, etc.
Est-ce que tu dirais, donc en d'autres termes, que l'organisation commerciale permet de compenser ce que le conseiller, lui, ne peut pas faire tout seul?
Oui, alors je présenterai les choses autrement. Je dirais que quelque part, l'organisation, elle s'adapte. Elle est vraiment au service du commercial. Encore une fois, le point d'ancrage, c'est vraiment le conseiller. C'est le conseiller financier qui maîtrise cette relation avec son client. Charge à lui d'aller mobiliser les expertises nécessaires au soutien de son action.
Et en matière de réseau d'expertise, justement, comment ça s'organise ?
Le conseiller doit développer cette capacité. C'est aussi notre compétence, quelque part, à mobiliser à bon escient les expertises qu'il peut mobiliser autour de lui. Donc, c'est à bon escient, c'est-à-dire au bon moment, compte tenu des besoins du client. Donc, il faut être pertinent. Et tout en veillant à ne pas surmobiliser ces expertises, parce qu'elles sont souvent rares, quand même, dans les institutions.
Et juste, je me permets de t'interrompre, dans ce cas présent, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le risque, si je puis dire, de faire rentrer un tiers dans la relation privilégiée qui a été instaurée avec le client ?
Oui, tout à fait. On peut voir cette expertise à la fois comme, il faut le voir comme ça, hein, comme une valeur complémentaire hein, à celle qu'apporte le conseiller. Mais effectivement, il y a un risque à une certaine désintermédiation. Donc voilà, on fait intervenir une tierce personne dans cette relation privilégiée entre le conseiller financier et son client. Donc, encore une fois, c'est aussi de la compétence du conseiller d'aller maîtriser cette relation quand bien même un tiers intervient.
Et est-ce que les fondamentaux de la stratégie commerciale, eux, ils ont changé ?
Je pense pas. On est toujours dans une logique de conquête et d'élevage, mais c'est vraiment les modalités de réalisation de ces fondamentaux qui vont changer. Par exemple, on va être de plus en plus dans une logique de flux. C'est pas seulement le patrimoine qu'on prend en compte, mais aussi c'est les revenus du client et l'évolution de ses revenus dans le temps. On va être aussi dans une logique de segmentation par potentiel, en termes de potentiel du client patrimonial ou client aisé. Ça veut dire qu'on va devoir s'adapter, s'interroger sur l'évolution du client, ses projets et la manière d'accompagner ses projets. Ces projets, c'est la même qui peuvent avoir bien évidemment un impact sur son patrimoine.
Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner justement d'une logique de segmentation en fonction du potentiel du client ?
Oui, alors peut-être plus que sur un sujet de potentiel, c'est un sujet d'adaptation au projet ou la manière de voir les choses, on va dire, des clients et leurs besoins et attentes. Par exemple, on peut imaginer un conseiller financier qui a dans son portefeuille Yon Chouinard, hein, qui est le fondateur de la marque Patagonia, qui a récemment cédé son entreprise à des ONG environnementales. Et puis, on peut considérer que ce même conseiller, il a dans son portefeuille un patron d'entreprise qui cherche à passer la main de son entreprise tout en restant au capital. Donc, dans les deux cas, on a un sujet de transmission d'entreprise, hein, qui est un sujet de gestion patrimoniale, bien évidemment. Mais on comprend de manière évidente que le conseil et les réponses que le conseiller va apporter à ses deux clients n'ont strictement rien à voir.
Tout à fait. Donc, pour reprendre le fil de la discussion, hein, tu disais que la stratégie commerciale s'organise autour d'une logique de flux, puis aussi d'une logique de segmentation du potentiel client, on vient de le voir. Et si on parle de stratégie commerciale, on doit forcément aussi parler de stratégie de conquête. Est-ce que tu as des évolutions à mentionner sur ce plan ?
Oui. Alors, notamment à l'endroit de cette clientèle patrimoniale, hein, on voit de plus en plus l'importance se développer de la recommandation. Alors pourquoi ? Parce qu'on voit que les leviers traditionnels de conquête ont tendance à s'essouffler d'une part. Puis on a de plus en plus de contraintes réglementaires associées, par exemple RGPD. Donc, ce levier de la recommandation est de plus en plus important. Mais ce n'est pas évident, encore une fois, hein, comment je vais chercher une recommandation auprès de mes clients, comment je systématise l'approche. Est-ce que ça va changer la manière, finalement, d'appréhender mon client ? Donc, c'est des questions structurantes que se posent les conseillers et sur lesquelles les directions commerciales vont pouvoir l'aider. Et je voulais citer à titre d'exemple un projet qu'on a mené chez Everton il y a quelques temps auprès de la direction commerciale d'une banque privée. On l'a accompagné à animer un certain nombre d'ateliers et de partage de bonnes pratiques sur la recommandation. Et l'objectif sous-jacent de tout ça, c'était bien évidemment de désinhiber les conseillers par rapport à ce sujet ou ce levier, ce nouveau levier de conquête qu'est la recommandation. On peut aussi, on l'a un peu évoqué précédemment, mais il y a le conseiller, il y a le bureau du conseiller, mais beaucoup de choses qui se passent hors des murs. Et on comprend bien à cet endroit qu'on doit adapter les leviers de conquête pour aller sur les réseaux sociaux, pour gérer des événements, créer des événements pour les clients, cette clientèle aisée, et aussi être partie intégrante, participer à un certain nombre de cercles d'investissement. Donc on voit tout ça, bien évidemment, ce sont de nouveaux leviers commerciaux que doit maîtriser le conseiller financier.
Oui, donc tout ceci n'est pas que l'affaire des conseillers.
Non, on a parlé des experts tout à l'heure, mais il y a aussi l'encadrement, le management qui est clé dans l'animation et le pilotage des réseaux patrimoniaux, réseaux de clientèle aisée. Il va être clé donc pour organiser les expertises dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi pour, dans certains cas au moins, par exemple, pouvoir aller chercher des opportunités commerciales qui existent quand on va conjuguer les domaines privés et professionnels d'un même client. On peut, et c'est souvent le cas dans les institutions financières, avoir un client qui, d'à côté, est client à titre privé et se trouve être le patron d'une entreprise qui est aussi cliente d'une entité professionnelle ou corporate. Donc il y a tout un jeu là pour développer les synergies, les opportunités commerciales autour de ça. Et puis bien évidemment, le management, il a un rôle clé dans le pilotage de la performance, l'animation commerciale. Il doit tenir compte dans son pilotage de l'hétérogénéité des portefeuilles des conseillers financiers ou conseillers patrimoniaux, comme on l'a vu tout à l'heure.
Et au-delà de ces leviers dont tu parles, le management, l'instauration de synergies, le pilotage, quel est le rôle aussi des autres directions dans la prise en compte des évolutions dont tu parles? Est-ce que tu aurais des exemples à citer?
Alors, il y a un rôle assez évident de la direction des ressources humaines. On a vu toutes les compétences que le conseiller devait développer. Donc, cette direction des ressources humaines, elle doit faire évoluer les référentiels de compétences, enrichir les catalogues de formation, donner de nouveaux moyens d'accès au développement des compétences, moderniser ces moyens de développement des compétences sur des sujets aussi clés que l'ISR, les réseaux sociaux, par exemple. Il y a un point clé aussi côté DRH, c'est, on l'a vu, on a parlé de couteau suisse, le conseiller financier patrimonial, il est le couteau suisse de cette relation, il est aussi le mouton à cinq pattes, il doit être maîtrise d'un certain nombre de compétences. Donc de ce fait, il est aussi très convoité par les concurrents. Donc il y a un vrai enjeu des DRH, aller créer de l'attractivité pour ses conseillers financiers, mais aussi de créer des moyens et des leviers de les fidéliser à l'organisation en question. Et donc pour ce faire, elles doivent aussi projeter des parcours professionnels inspirants, aspirants peut-être, pour ces conseillers financiers, de manière à ce qu'ils restent fidèles à l'institution financière. On peut aussi citer les directions marketing, on l'a vu tout à l'heure, on a parlé de clientèle plurielle, d'où le besoin de segmenter les portefeuilles et de définir des propositions de valeur totalement adaptées à ces différents segments. Donc là, bien évidemment, le rôle de la direction marketing est clé. Donc voilà, donc tout ça, on voit bien que le conseiller financier, conseiller patrimonial, certes, il est ultra compétent. En tout cas, il doit développer beaucoup de compétences, mais il n'est pas seul. Il a des expertises et beaucoup de support des directions centrales.
Très bien. Donc, nous arrivons à la fin de notre échange, Fabienne, et nous en avons parlé en préparant ce podcast. Verton a accompagné des clients bancaires et assurantiels autour de tous ces sujets que tu évoques aujourd'hui avec nous, pour justement les aider à adresser des problématiques variées. Est-ce que tu définirais une approche spécifique à Verton de ces problématiques, même si tu me diras que chaque mission est unique?
Oui, alors je vais citer déjà ce qui fait de l'ADN de Verton, cette réflexion et ce souci qu'on a dans chacun de nos projets, dans chacune de nos missions, de proposer des solutions qui sont complètement designées, adaptées aux besoins et aux attentes des clients. Donc, quand on parle de sujet de la clientèle patrimoniale, cette clientèle plurielle, naturellement, nous, on va déployer un certain nombre de moyens pour rentrer vraiment en compréhension fine des besoins et des attentes. Et on n'hésitera pas à cet effet à solliciter des partenaires qui peuvent être des panélistes ou des instituts d'études qui vont nous aider justement à vraiment avoir cette compréhension et cette connaissance très fine des cibles de nos clients. Un deuxième point qui nous caractérise, je pense que c'est une certaine recherche d'un alignement de A à Z entre les différents leviers qu'on va mettre dans la proposition de valeur pour répondre aux besoins et attentes de ces clientèles plurielles. Et alors, par exemple, ça veut dire en marketing, designer des propositions de valeur complètes et complètement cohérentes entre du produit, du service, des modes de distribution, des canaux de communication, des supports digitaux, etc., etc. Et puis, juste pour citer un exemple, oui, effectivement, on a accompagné la filiale patrimoniale de l'un assureur dans la conception d'un dispositif en 360, justement, pour sa clientèle aisée, qui mixait, bien évidemment, de manière cohérente, de l'offre, du service, un modèle relationnel, des outils digitaux, et également des systèmes de valorisation de la performance au travers de dispositifs de bonusing. Et puis peut-être une dernière touche Verton, on est un cabinet multisectoriel, donc on n'hésitera pas, quand c'est pertinent, à aller s'inspirer, même pour un acteur des services financiers, à aller s'inspirer des pratiques d'autres secteurs. Et donc pour cette clientèle patrimoniale et clientèle aisée, on pourra regarder par exemple ce qui se fait dans l'aérien, ce qui se fait dans l'hôtellerie haut de gamme, également dans des marques de consommation, je pense par exemple ce que fait Nespresso pardon, pour ses meilleurs clients.
Ok, très bien. Un grand merci Fabienne pour cette analyse que tu es venue partager avec nous, et puis merci aussi pour la présentation de la touche Verton, parce que c'est vrai que revenir sur des exemples concrets de mission, c'est toujours très apprécié des personnes qui nous écoutent, et puis c'est aussi ce que l'on recherche nous avec ce podcast, de pouvoir revenir sur ce qui fait de Verton un cabinet singulier. Et on continuera à le faire en 2024 avec plein de nouveaux sujets, des nouveaux intervenants autour des thématiques de l'expérience client, des stratégies commerciales et partenariales et des stratégies marketing. Alors d'ici là, merci et puis à très bientôt. Au revoir Fabienne.
Merci Mathilde, au plaisir.
Au plaisir.
Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur Verton, vous pouvez retrouver toutes nos études et notre actualité sur notre site internet verton.com et nos réseaux sociaux. À bientôt.